Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Merci d'être avec nous. Nous sommes dimanche, ça y est, le week-end se termine bientôt. Il est 18h, merci d'écouter Sud Radio. Et c'est Sarroul avec vous jusqu'à 19h. Et alors attention, parce que c'est un Sarroul spécial, nous avons décidé de laisser notre volant de côté. Avec vous, Pierre, on va parler des nouvelles mobilités, les micro-mobilités. Ça va, mon Pierrot ?
Oui, jusqu'à là, ça va. Maintenant, je vais frôler l'infarctus du myocarde dans quelques secondes. Mais pourquoi pas ? Tout ce qui roule, on en parle. On vous avait fait assez de promesses. Non, mais c'est, au-delà de ça, c'est hyper intéressant de voir ce qui se profile, comment notre société évolue, l'adhésion aux mesures. Et puis, vous inquiétez pas, avec mon petit côté automobiliste un peu franchouillard et gaulois réfractaire, je suis là pour garder la boutique.
0826 300 300. Est-ce que vous-même, vous utilisez maintenant ce qu'on appelle les nouvelles mobilités pour bouger? Est-ce que vous prenez évidemment vos vélos? Ça, c'est pas nouveau.
Non, c'est
vos trottinettes? Oui, mais c'est de plus en plus. Donc, ça fait partie maintenant vraiment des nouvelles
mobilités. Mon grand-père,
il avait un vélo. Les trottinettes, aujourd'hui, est-ce que vous les prenez pour vous déplacer à titre loisir, boulot? Bref, venez avec nous, venez témoigner. Que pensez-vous, d'ailleurs, si vous êtes automobiliste, de ces nouvelles mobilités?
Ça se vend comme des petits pains, en tout cas.
Mais c'est top. Et est-ce que c'est praticable ensemble? On en parle avec nos deux invités, Fabrice Furlan, président de la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, et Jean Ambert, qui est fondateur du cabinet d'études Smart Mobility Lab, spécialisé sur l'étude des sujets de mobilité. On va tout savoir de ces nouveaux pratiquants.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Monsieur Furlan, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Merci beaucoup, monsieur Ambert.
Bonjour. Bonjour.
Alors mon Pierre, ça y est, de toute façon, on y est, qu'on aime pas.
Non, c'est très bien, moi je suis pour.
On y est, non. On est dans les nouvelles mobilités. Fabrice Furlan, ça a explosé, surtout depuis la Covid.
Oui, et même bien avant, puisque c'est un marché quand même qui évolue depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, et qui a surtout explosé avec l'apparition des ce qu'on appelle les acteurs du free-floating, donc les trottinettes électriques en libre-service que vous voyez
dans la capitale
et dans d'autres villes, nationalement et aussi à l'international. Donc c'était déjà un marché qui était en forte évolution et qui a émergé en 2017 quand ces acteurs sont arrivés et qui a fait connaître des nouveaux moyens de mobilité qui sont, pour le coup, et c'est le succès aussi de ces engins, très complémentaires avec les autres moyens de locomotion.
Mais il y a quand même un intérêt qui est extrêmement positif. C'est que vous reconnaissez, c'est hyper pratique. Avec son smartphone, on part avec une trottinette, ça prend pas de place. Pour des courts trajets, pareil, c'est d'une praticité sans nom. Après, il y a le côté problématique, le stationnement, le niveau d'entretien qui est dur à effectuer parce que je me suis rendu compte d'une chose avec le temps, c'était comme les automobiles partagées. À partir du moment où c'est partagé et que c'est en location, on s'aperçoit quand même qu'il y a un défaut d'entretien, quoi qu'il arrive.
Alors ça dépend, c'est pour le free-floating, parce qu'en fait, les motards.
Quand t'es appartient, c'est autre chose.
Voilà. Est-ce qu'on peut un petit peu définir ce que sont ces nouvelles mobilités? C'est-à-dire, quel type d'engins font partie de ce qu'on appelle les nouvelles mobilités?
Tous les trucs
Fabrice.
Bizarres, les trucs où vous êtes sur une roue.
Fabrice Furlan.
Donc, c'est ce qu'on appelle, sous le terme de EDP et EDPM, donc engin de déplacement personnel et M pour motorisé, qui regroupe évidemment ce qui est le plus connu, qui sont les trottinettes électriques, mais les monoroues, les gyroroues, les gyropodes, tous ces engins... Pas les vélos.
D'accord.
Les vélos et les vélos à essence électrique sont une catégorie à part.
D'accord.
Et sont différenciés dans le code de la route, puisque ces engins EDPM existent dans le code de la route depuis octobre 2019, mais sont deux catégories différentes. Par contre, ils occupent les mêmes règles et les mêmes espaces, c'est-à-dire les pistes cyclables, et pas les trottoirs.
Jean Ambert, racontez-nous un peu le profil du pratiquant de ces nouvelles mobilités, si vous qui faites des études avec votre cabinet d'études Smart Mobility Lab.
Alors, on a un certain nombre de profils identifiés dans les différentes études qu'on réalise. Là, dans le cadre d'une étude pour Mobiprox, on voit par exemple, on a les trotteurs du week-end. Donc eux, par exemple, c'est...
Les trotteurs. Est-ce qu'on pourrait pas, excusez-moi, trouver un autre nom, parce que moi, trotteur, c'est le cheval. C'est sur l'hippodrome. On pourrait pas leur trouver un autre nom?
Moi, je les appelle les trottinettistes.
Ouais, ou les trottineurs.
Je trouve ça rigolo.
Oui, alors en tout cas, voilà.
Vous appelez ça les trotteurs, mais je crois qu'il faut leur trouver un autre nom.
Du week-end, où là, eux, c'est à peu près 20%, et ils vont l'utiliser plutôt en termes loisirs.
Et
donc, voilà, donc il y a vraiment cette population pour des plus courte distance. Mais on a aussi, par exemple, les... on va appeler ça tout ce qui est lié aux jeunes citadins. Par exemple, là, c'est plus de 30%, et là, plutôt par rapport à ceux qui sont possesseurs. Là, je vous donne des...
Propriétaires, vous voulez dire,
oui,
de leur
trottinette. Oui, c'est ça, possesseurs, propriétaires de leur engin, à peu près 30, plus de 30% aussi des possesseurs. Et donc, là, jeunes, plutôt urbains, actifs, et aussi en semaine. Donc, voilà. Et puis, on a a ceux qui font vraiment des, on va les appeler les pendulaires actifs. Donc
c'est,
là, c'est vraiment
plus presque. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça. Alors,
c'est quoi les pendulaires actifs?
Je vais vous raconter un truc.
Attends, c'est quoi les pendulaires actifs?
Mais justement, on y vient. Non, mais on y vient parce que je les vois moi les pendulaires. Moi, j'habite pas Paris.
Attention, CSP+. Ouais. Je pense que c'est pas. Pas la bonne voie.
Alors, pas tout à fait, mais j'habite pas Paris. J'ai fait le choix. Je suis même pas en banlieue. Moi, je suis parti.
Dans la Sarthe.
Ouais, je suis bien. Je suis tranquille dans le Perche. Je suis très bien.
Au vert.
Voilà, au vert. Voilà.
C'est pour ça que. Mais lui, il écrit aussi écolo, vert. VE2RE. Hein.
Je sais. Oui, on écrit toutes les manières. Ça me va. En fait, je me suis rendu compte d'un truc. Maintenant, c'est que le matin dans le train. J'ai de plus en plus de gens qui viennent avec leur trottinette, ce qui pose d'ailleurs un vrai problème en termes de place dans le train, parce qu'ils savent pas où les mettre. Ils prennent les places assises, on n'a rien prévu pour les trottinettes. Et ils viennent avec leur trottinette, et alors, effectivement, je vois de tout. Mais alors, je suis toujours impressionné quand je vois quelqu'un en costard, hyper bien habillé sur la trottinette, avec cet air, vous voyez, très droit, comme ça, très, très haut perché sur la trottinette. Je trouve ça toujours ça très marrant, mais j'ai l'impression que c'est devenu un outil de déplacement en complémentarité d'un autre.
Exactement.
Quoi.
Alors, nous, on parle d'intermodalité. Et donc, c'est véritablement un phénomène et une grande tendance de fond. Nous, dans le panel qu'on a de plus de 600 utilisateurs dans le cadre de l'étude Mobiprox, c'est des personnes qui sont amenées à utiliser à plus de 80% pour des déplacements au quotidien. Ce type d'engin, donc la trottinette électrique ou la gyroroue. Pierre, vous avez jamais essayé ça, la gyroroue?
Non, mais alors, je vais vous faire une confidence.
Ouais,
moi, j'ai essayé la trottinette, j'ai failli me casser la gueule. Alors, le gyroroue.
Fabrice Ferland, avant d'accueillir David qui nous appelle de Blagnac.
Il y a plusieurs sujets, hein. 80% pour un usage quotidien. On voit bien que c'est très complémentaire avec les autres besoins d'usage du quotidien. On connaît évidemment la voiture, vous en parliez tout à l'heure, le vélo, la marche, les transports en commun. On a des villes qui sont congestionnées et ça ne nous échappe pas. Et ces usages-là permettent de compléter le besoin de mobilité. Tout ce que vous vivez dans les transports en commun. Et c'est ça qui est extraordinaire.
On a David qui nous appelle au 0826 300 300, et je veux vous dire qu'en plus, il écoutait bien l'émission. Salut David!
Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole à votre antenne.
Alors, dites-moi, le standard me dit dans l'oreillette que vous avez une entreprise qui s'appelle Xtreme Electra, et depuis 5 ans, vous êtes spécialisé dans les trottinettes.
Bah, ça y est, il est riche. Oui. Donc, vous êtes un nouveau milliardaire.
Non, malheureusement pas, parce que nous n'avons pas choisi de travailler complètement avec les Chinois et de fournir des trottinettes chinoises. Nous avons travaillé sur une trottinette française à 60%, puisqu'on était limité au niveau des pièces.
Ah oui, donc ça coûte cher.
On a fait le Tour de France en 2020, en juillet. Oui, en fait, nos trottinettes, le premier prix, c'était... parce que là, on a un tournant, on est en train de faire une trottinette à 90%, donc on a arrêté avec eux, suite à la crise sanitaire et augmentation des coûts du transport, plus les difficultés d'importation.
Donc combien?
Et là, entre 1000 et jusqu'à 5000 euros.
Oh la vache, jusqu'à 5000 euros. Pardon, excusez-moi.
Nous avons une trentaine de pilotes.
5000 euros pour une trottinette?
Oui, une trottinette.
C'est une voiture d'occasion, quoi.
Autonomie. Oui, alors, il ne faut pas trop comparer avec... elle a sa valeur, hein. C'est-à-dire qu'elle est
usinée
à Toulouse. Ingénieur de Airbus vient me dire qu'elle n'est pas assez chère, par exemple. Alors que le client lambda va la regarder et va...
Il a dit ça avec ironie, hein. Quand quelqu'un est mort de rire en vous disant ça...
Non, David, c'est parce que c'est celle qui a eu le plus de succès. Hein.
D'accord, mais David, sans vouloir faire de publicité, puisque malheureusement, vous savez qu'on ne peut pas, mais dans votre entreprise, vous faites des trottinettes, vous avez vu une montée en puissance des ventes?
Alors nous, on a été le premier à rouler en Xiaomi. Déjà, vous voyez la Xiaomi, la trottinette du peuple, qui est vendue partout sur le marché. On nous l'a présentée, le premier à importer cette machine-là, on a importé 12. Hein. Quand on a vu que c'était un jouet, on a arrêté avec ça.
David, c'est pas ça la question. Excusez-moi de vous couper la parole, mais du coup, est-ce que vous avez plus de clients aujourd'hui? Est-ce que vous sentez une vraie montée en puissance des demandes de la part des clients?
Non, mais la sienne, ta trottinette, elle monte à 260 sur autoroute. Hein.
Non, j'ai une trentaine de pilotes qui sont des mes clients. Le plus vieux a 65 ans, il est à 8000 km depuis 3 ans, là, déjà. Là, t'as 8000 km avec une des machines. Il a vendu sa voiture, hein. Ça a été un choix de mobilité. Pris suite aussi à l'augmentation du gasoil, donc il a fait ce choix-là. Il est à la retraite, il avait une bonne voiture et il a décidé, parce qu'il est à Toulouse par exemple.
Oui, voilà, il va évoluer en ville. Important, David, ce que vous venez de dire, parce que Fabrice, en fait, on est vraiment quand même particulièrement sur une utilisation urbaine, quoi. Essentiellement.
Urbaine et périurbaine. Et merci David pour le témoignage, parce qu'on est vraiment On voit que ça évolue et les usages évoluent et le besoin de monter en gamme évolue. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple de la trottinette qui a été citée Xiaomi et la trottinette haut de gamme, donc on est sur du produit très très haut de gamme, mais entre 5000 euros et 200 euros, on a plusieurs usages. Il y a le loisir, et il y a l'usage quotidien et l'usage intensif. Vous parliez du dernier kilomètre tout à l'heure. Effectivement, les besoins pour du dernier kilomètre avec un usage intensif ne sont pas les mêmes pour quelqu'un qui est périurbain, qui va faire 10 km ou 15 km tous les jours. C'est comme le vélo. Vous avez une offre qui est étendue, qui s'élargit, et en plus avec des produits qui progressent fortement, qui sont de plus en plus responsables, réparables.
Bien sûr.
Et c'est tout ce qu'on structure avec la filière, des éco-organismes, une filière de recyclage.
Un vélo full carbone, c'est 4 chiffres.
Le prix de vente moyen d'un vélo assistance électrique aujourd'hui est de 2200 euros.
D'ailleurs, à ce sujet, Jean-Ambert, vous qui êtes fondateur du cabinet d'études Smart Mobility Lab, qui fait donc des études sur ces nouvelles pratiques et sur les gens qui le pratiquent. Effectivement, les gens maintenant, enfin ceux qui pratiquent, il y a un vrai budget pour eux sur la trottinette. Vous avez étudié, c'est vraiment.
Effectivement, alors, on fait vraiment une grande différence si c'est des primo-accédants, on va dire, si c'est vraiment le premier engin qu'ils achètent. Et donc là, très souvent, c'est pas cher parce qu'ils n'ont pas nécessairement connaissance aussi de tous les usages potentiels à faire. Et donc là, souvent, le prix d'achat est en dessous de 500, vraiment en dessous de 500 euros. Et donc,
je vais vous faire une confidence. Moi, quand je vois une trottinette, alors j'en ai acheté une à ma fille avec la Reine des Neiges dessus il y a quelques années.
Ouais,
mais voilà, mais moi, pour moi, la trottinette, ça reste ça. Alors, mettre 500 euros dans une trottinette électrique, déjà, je trouvais ça très cher, mais 5000 euros, j'ai du mal à avoir un sourire qui s'arrache. Quand vous me dites 2000 euros, mais j'ai l'impression qu'on est tombé sur la tête.
Là, on est vraiment sur des cas quand même bien spécifiques. Alors là, ce sont vraiment des...
5000 euros, on est très...
C'est vraiment là, voilà, c'est vraiment...
Même 2000 euros, c'est très cher.
Oui, mais attends,
prenez l'exemple de l'autonomie. Aujourd'hui, la montée en gamme est nécessaire parce que vous avez besoin dans des usages quotidiens pendulaire de confort, de fiabilité, de robustesse, parce que vous faites un usage vraiment très quotidien, et d'autonomie. Quand vous faites 10 à 20 km par jour, il faut une batterie qui puisse tenir la route. Et une batterie, c'est quasiment 50% du coût du produit. Donc c'est tous ces éléments qui font...
Ça roule. On revient sur le sujet dans quelques instants avec vous, Fabrice Furlan, président de la Fédération des professionnels de la micromobilité. Et puis Jean Ambert, qui est fondateur du cabinet d'études Smart Mobility Lab, qui nous donne pas mal d'infos sur les utilisateurs de ces nouvelles mobilités. Nous aurons aussi Thierry Delcube, qui est fondateur de Wizas, qui est un concepteur de produits d'assurance spécifiques pour ces nouvelles mobilités. On en parlera. Et puis on va parler aussi du sujet qui fâche, parce qu'il y a un moment... On parle vrai sur Sud Radio, c'est que ces trottinettes ou tous ces nouveaux moyens de locomotion dans les zones urbaines, ça peut être considéré comme étant très dangereux. Il y en a qui font tout et n'importe quoi. On en parle en détail. 0826 300 300. Vous avez envie de réagir, on vous attend.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Gros sujet super intéressant sur les nouvelles mobilités dans Sarroul en ce dimanche soir. Vous êtes peut-être pratiquant de trottinette pour aller travailler, vous êtes peut-être pratiquant de ces nouvelles mobilités comme les gyros par exemple, les monowheels, on les appelle aussi comme ça, me dit Bastien qui réalise notre rendez-vous. On parle de tout ça avec Fabrice Furlan, président de la Fédération des professionnels de la micromobilité.
2000 balles une trottinette.
Jean Ambert, fondateur du cabinet d'études Smart Mobility Lab. On accueille tout de suite Thierry Delcube, qui est fondateur des concepteurs de produits d'assurance spécifiques aux nouvelles mobilités, c'est Wizas. Et on va parler aussi des sujets qui fâchent du partage de la route avec toutes ces nouvelles mobilités. Bonjour Monsieur Delcube.
Bonjour à toutes et tous.
Merci d'être avec nous. Alors maintenant, ça y est, il y a des assurances qui existent pour les nouvelles mobilités ?
Et oui, puisque depuis la publication au journal officiel de la LOM, les engins
à déplacement motorisés,
voilà exactement, les engins à déplacement personnel motorisé, derrière ça se cache l'acronyme EDPM, toute trottinette, gyro-roue et dernièrement les draisiennes sont considérées dorénavant par le code de la route comme des véhicules terrestres à moteur. Et donc, pour une trottinette, comme pour une voiture ou une moto, il y a, pour l'usager, une obligation de s'assurer.
Franchement, moi, je dis que c'est une bonne chose. C'est évident que c'est une bonne chose. On a vu les chiffres de la sécurité routière 2021 qui sont tombés. On est passé de 10 tués en trottinette à 22. Les accidents suivent, forcément, le même schéma. Sur les cyclistes, on a une augmentation d'entre 20 et 30% selon le fait qu'on soit en ville ou hors agglomération. C'est une réalité. Alors, on nous dit toujours, ah ouais, mais c'est parce qu'il y a plus d'utilisateurs. Faux. Lorsqu'il y avait de plus en plus d'automobilistes, il n'y avait pas forcément de plus en plus d'accidents. Donc il y a un vrai problème, et désolé de mettre le doigt dessus, mais vous allez me répondre. Il y a un vrai problème de comportement.
Alors, voilà, tiens,
je le dis clairement, sur les trottinettes, et vous avez raison, monsieur, d'assurer, et tant mieux pour vous, non seulement on va falloir les assurer, mais au bout d'un moment, on va falloir les contrôler, parce que je pense qu'au niveau du comportement, ça ne va pas.
Daniel voilà. est avec nous, d'ailleurs, je pense qu'il veut en parler au 0826 300 300, on vous donne l'appareil après, hein, ne vous inquiétez pas. Daniel est avec nous. Ah, on a perdu Daniel, donc on va essayer de le rappeler. Daniel, en fait, il disait qu'il s'inquiétait du nombre d'incivilités. Et là, on a une vraie problématique, on va vous redonner la parole, Thierry Delcuppe, mais je voudrais que Fabrice Furlan et Jean Ambert réagissent. On a tous cette sensation, quand on habite dans des grandes villes, effectivement, qu'il y a de l'incivilité, que les trottinettes passent partout, sur
c'est
les trottoirs.
C'est pas une sensation. Hein.
Alors, est-ce que c'est une réalité ou non? Ou c'est parce qu'on est mauvais joueur? On ne veut pas partager?
Non, pas mauvais joueur. Bah, déjà, il y a une problématique de partage, puisqu'il faut cohabiter. Rappelez-vous, en 2007, quand le Vélib est apparu, avec les problématiques de cohabitation, avec les voitures, on vit le même schéma. Et aujourd'hui, le partage de la chaussée et des voies cyclables doit se faire à plusieurs, avec d'autres moyens de locomotion. Effectivement, il y a des chauffards. Mais comme en voiture, il y a des chauffards qui brûlent les feux rouges, qui roulent à 200 sur l'autoroute. Et si.
Non, aujourd'hui, mais c'est statistique. C'est qu'aujourd'hui,
quand vous...
Non, mais moins.
On n'a pas forcément les mêmes statistiques.
Statistiquement, je veux être
mais
très clair.
Mais prenez l'exemple des voitures, des vélos, on a les mêmes problématiques. Mais c'est un marché qui évolue aussi.
Non, laissez-moi être très clair. Vous prenez un feu tricolore, j'ai fait le test. Vous allez au feu tricolore, les automobilistes s'arrêtent et vous avez... parfois, un automobiliste qui va griller le feu. Lorsque vous êtes à un feu tricolore et que vous voyez les trottinettistes et les cyclistes, c'est quand il y en a un qui s'arrête qu'il faut le prendre en photo.
Mais c'est ce que dit M. Furlan.
C'est ce que je dis. C'est qu'il y a des chauffards.
C'est exactement ce qu'il dit. Il y a des chauffards.
Et il y a des règles.
Mais pas des chauffards.
C'est dans le code de la route.
Ouais.
Et aujourd'hui, les règles sont très claires et ça verbalise. Et c'est aux forces de l'ordre de verbaliser. Et le problématique, c'est les chauffards. C'est pas l'engin. Et il y a des règles. Les règles sont récentes. Mais imaginez aujourd'hui des voitures sans code de la route. C'était le cas avant 2019.
C'est une évidence. Mais comment ça se fait qu'on verbalise pas ?
C'est une évidence, mais il y a aussi une méconnaissance, une pédagogie. C'est tout ce qu'on porte avec la fédération.
Fabrice, qu'est-ce qui était le cas avant 2019 ?
Il n'y avait pas de règles de circulation sur les trottinettes électriques.
Ah ouais, c'est le cas pour les voitures, c'est pour ça que je me suis permise.
Mais je projette et je donne un exemple. Si ce n'était pas le cas avec la voiture, il n'y avait pas de code de la route et de règles, ça serait pareil. Exactement. Et c'est des règles à faire respecter, les forces de l'ordre sont pour ça. Et d'ailleurs, ils verbalisent et ça évolue. Et on le voit évoluer.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut un code de la route spécial trottinette ou une obligation? Parce que les trottinettes, il n'y a pas de plaque d'immatriculation.
Ils ont le code de la route.
C'est dans le code de la route.
C'est dedans, ça y est.
Mais on peut pas.
Et il y a des amendes.
Mais
il y a des amendes.
Quand
vous roulez à plus de 25, c'est une amende de classe 4 à 1 500 €.
Mais
si vous roulez sur trottoir, c'est une amende. Mais c'est la verbalisation, comme quand vous êtes dans une voiture.
Il n'y en a aucune de verbalisation. Ils font
c'est ça sans doute le problème. Il n'y a pas de sanction aujourd'hui.
Voilà.
Donc je pense que c'est aussi le fait d'éduquer. Et c'est pour ça qu'il y a des programmes aussi de formation par rapport à la prise en charge et par rapport à la conduite de ces engins. Mais c'est un vrai besoin. Je crois que la fédération aussi met en place des sessions aussi dans le cadre de Mobiprox, mais c'est important de pouvoir sensibiliser aux bonnes pratiques sur le fait de ne pas rouler à deux. Alors qu'on voit bien souvent dans le cadre du free floating du libre service,
ils
roulent à deux, de ne pas rouler sur les trottoirs. Enfin, voilà. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être rappelés et en même temps être sanctionnés s'ils ne sont pas appliqués.
J'ai vécu quelque chose, restaurant, vous savez, pas trop cela au mois de janvier parce qu'il ne fait pas assez beau, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ils avaient encore le droit d'avoir leur terrasse sur les trottoirs, en tout cas sur les grandes villes. Et vous avez des trottinettes, alors que vous avez les garçons qui sortent pour servir les tables et les trottinettes qui passent. Et il y a eu un accident. Ça devait arriver. C'est-à-dire que la trottinette est passée. C'était un free-flotter, c'est-à-dire que c'était effectivement une trottinette louée en mobilité dans une grande ville que je ne nommerai pas.
Mais alors, ça veut dire qu'on se comporterait moins bien quand c'est pas la nôtre.
Et ben voilà, c'est là où je veux en venir, parce que je l'ai vécu, moi. Et c'est vrai que les free-flotters s'en moquent, c'est pas leur matériel.
Aujourd'hui, j'ai amené deux chiffres. Aujourd'hui, les engins dits de free-floating sont à peu près de 25 000 à 30 000 sur le territoire français.
Ah, quand même.
C'est la partie émergée, mais vous regroupez toutes les villes de France.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et les engins qui sont vendus, je vous donne un chiffre, c'est 650 000 trottinettes électriques qui ont été vendues en 2020. C'est depuis 2019 plus que de vélos, et c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est les plus responsables. Il faut savoir aussi que les trottinettes de free-floating, une bonne partie sont aussi des touristes, sont des utilisateurs loisirs, occasionnels, qui ne sont pas forcément au courant des règles et qu'il faut sensibiliser.
Mais dedans,
c'est le travail que font aussi ces acteurs de free-floating.
Dedans, il n'y a pas la trottinette de ma fille avec la reine des neiges dessus, on est bien d'accord.
Thierry Delcuppe, fondateur de Wizards, concepteur de produits d'assurance spécifiques. Alors, EDPM, c'est...
Engins de déplacement personnel motorisés.
Merci beaucoup. Quand on emprunte un free floating, on n'est pas assuré chez vous. Quand on a une trottinette, ça devait arriver ça. Même une trottinette à partir de 500, 100, 200, 2000, 5000 euros, on l'assure chez vous ? Est-ce qu'il y a aussi une différence de comportement ?
Alors, effectivement, utiliser une trottinette, qu'elle soit en free-floating ou qu'elle soit en pleine propriété, l'obligation d'assurance pèse sur le propriétaire de la trottinette.
Ce qui veut dire c'est obligatoire l'assurance ?
Ah non, tous les cas de figure. Une entreprise aujourd'hui des trottinettes en free-floating, c'est assuré préalablement en responsabilité civile, circulation, qui est le minimum, et voire dans certains cas également l'assurance du conducteur, c'est-à-dire de l'usager qui est en location.
C'est combien une assurance pour avoir le droit de monter sur un truc comme ça là ?
Une assurance responsabilité civile circulation qui est encore une fois le minimum. Hein. Ce que c'est que la responsabilité civile circulation, c'est l'assurance que si le conducteur renverse quelqu'un ou casse un rétroviseur ou bosse une portière de voiture, l'assureur de cet usager va venir dédommager.
Mais c'est combien ?
Mais c'est combien ? On paye combien ?
Ça coûte aux alentours de 5 euros par mois.
D'accord. Et si c'est ça c'est la responsabilité civile, mais si je veux assurer ma trottinette et moi-même dessus ?
Oui, c'est parce que contre le vol, tout ça, parce qu'en plus, voilà. Ça fait piquer facilement.
On peut monter jusqu'à combien ?
Voler une voiture, il faut des outils. Voler une trottinette, je la prends sous le bras, je me barre avec.
Ouais, mais si t'as pas ce qu'il faut pour la brancher, tu vas pas faire grand-chose.
Je la charge. Bon, une prise, ça va aller.
Alors, combien c'est le maximum ?
Donc une assurance qui couvre également le conducteur, c'est une assurance qui peut coûter aux alentours de 9 euros par mois, et une assurance tout risque, c'est une assurance qui coûte aux alentours de 13-14 euros par mois.
Et aujourd'hui, vous avez combien d'assurés pour conclure ?
Chez Wizas ?
Ouais, chez vous.
Nous, aujourd'hui, on assure un petit 10 000 machines.
Ah, quand même. Alors, on arrive à la fin de ce rendez-vous. Il nous reste une petite minute. Jean Ambard et Fabrice Furlan, vous pensez que évidemment, c'est pas juste un petit mouvement. Hein. On sent bien que ça y est, il y a un tournant qui est pris et que demain, c'est vraiment une mobilité qui va peut-être, en tout cas sur les zones urbaines, complètement remplacer voitures, scooters et compagnie.
Jamais pas remplacer. C'est vraiment très complémentaire. C'est une mobilité qui s'est installée, qui va continuer à progresser. Qui va prendre la place et qui est très complémentaire aux autres moyens de mobilité. D'ailleurs, on parlait de la loi qui cadre l'usage. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué aussi, puisque ça rentre aujourd'hui dans le forfait mobilité durable. Ça rentre aussi dans différents critères aussi davantage. Les drésiennes viennent aussi de rentrer dans le code de
Qu'est-ce
la route.
Qu'est-ce que c'est une drésienne ?
Une drésienne, c'est quand il n'y a pas les pédales.
Voilà, et position assise. Et c'est des engins qui correspondent aussi à des besoins. Et c'est important. C'est des besoins pour ceux sur lesquels le vélo ne correspond pas. Et la trottinette, ils sont
pas
là.
Il y a pas de pédale.
On parlait de diversité des engins dans des villes.
Il nous reste 30 secondes.
Dans des villes qui sont de plus en plus piétonnisées et avec moins de voitures, ça vient très complémentaire.
Juste pour conclure, si on a parlé des profils, mais on est donc plutôt urbain, 30 ans, voilà, en majorité, mais hommes ou femmes, ou les deux ?
Ah, c'est les deux. Et on s'aperçoit qu'il y a encore plus même de profils féminins par rapport au vélo, oui. Par rapport au fait de l'effort. En tout cas, c'est en cela que c'est complémentaire en termes d'usage par rapport au vélo. Les deux ne se marchent pas dessus. Et donc, voilà, il y a aussi bien des hommes que des femmes.
Moi, j'aimerais bien essayer,
mais j'ai peur. Moi, pour conclure, je vais te dire un truc. Je pense que tout ça va marcher parce que les villes ne peuvent pas abriter toutes les automobiles du monde. Il va falloir différents modes de déplacement.
C'est peut-être la drésienne qu'il vous faut.
Mais pour qu'il soit accepté ce mode de déplacement, Lolo, il n'y a qu'un seul point qui doit être fait. On doit pas faire deux poids, deux mesures. Ce n'est pas la loi pour les automobilistes et rien pour les autres. Il faut verbaliser ceux qui font n'importe quoi.
Voilà. Donc il faut des casques sur les trottinettes et des plaques d'immatriculation.
Ah oui, je suis pour, mais ça, c'est un autre débat.
Merci beaucoup, messieurs.
Merci à vous. Merci.
Au plaisir de vous retrouver prochainement parce que c'est des sujets qui vont revenir. C'est une évidence. C'est une évolution.
Ne serait-ce que le casque, hein, tu vois.
Et puis, moi, je vais essayer la trottinette. Allez.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et merci d'être avec nous en ce dimanche soir, deuxième partie de notre émission avec ces découvertes absolument incroyables que l'on fait pour vous aussi, ça fait aussi partie de Sarroule. Sais-tu, Pierre, qu'en France, à ton avis, est-il encore possible, oui ou non, de créer des voitures, de les fabriquer quand on n'est ni une grosse boîte, ni de grosses structures européennes. Est-ce que c'est encore possible comme au début du XXe siècle où il y avait plus de 100 créateurs de voitures ?
Alors possible, oui, difficile aussi, parce que derrière il y a tous les systèmes d'homologation qui font que c'est complexe.
Et puis les argents.
Et puis l'argent, parce qu'il faut la distribution, il faut des réseaux de distribution, il faut des réseaux de concessionnaires. Donc c'est un pari extrêmement risqué, mais moi j'aime les paris risqués.
Je vais vous présenter quelqu'un qui est en train de construire, enfin c'est déjà très avancé, une voiture qui s'appelle Aquilone, A-K-Y-L-O-N-E. Il va nous parler de son aventure, c'est Frédéric Gentil qui est avec nous et qui nous rejoint ce soir. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Ah, on vous voit en plus, vous êtes
merci
avec nous.
Merci de me recevoir.
Sur la page Facebook de Sud Radio, on vous voit en Zoom. Alors Frédéric, vous êtes un... Comment on appelle ça ? Un doudingue, voilà, avec beaucoup de tendresse. Vous êtes passionné de voitures et vous avez décidé d'en créer une. Vous pouvez me raconter un peu la genèse d'Aquilone ?
Ce projet, il est né il y a quelques années, effectivement, suite à une reconversion professionnelle. J'ai rencontré un prof qui m'a dit, tiens, bah, peut-être que vous pourriez fabriquer votre propre voiture suite à un book que je lui avais présenté. Et puis, de ce constat-là, eh ben, je l'ai suivi et donc j'ai décidé de créer cette propre voiture.
Bon, alors là, moi, je veux comprendre, parce que de temps en temps, j'ai connu des gens qui avaient une invention, bon, ils font ça en marge de leur boulot, ils développent le truc, mais ils n'engagent pas une somme d'argent phénoménale. Là, pour développer une voiture, on part dans le cosmos, dans l'inconnu, pour moi. Il faut un budget conséquent pour se lancer dans ce genre de projet. Vous avez mis, vous mettez en péril, peut-être même, c'est un pari risqué, c'est un pari fou.
Ah, c'est un pari fou, effectivement. Donc, au départ, on part avec une idée dans la tête, comme vous le mentionnez. Puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à fédérer des amis qui sont devenus des associés. Puis, après, tout un lot de petits investisseurs, de petits porteurs qui, aujourd'hui, représentent 280 personnes qui nous ont suivis à peu près jusqu'à ce jour. Et étape par étape, difficulté après difficulté, eh ben, on a réalisé des petites maquettes. Puis des maquettes taille réelle.
Alors attention,
enfin, prototype.
On l'a sous les yeux, Laurence me la montre.
Je vous la montre à l'écran aussi, pour ceux qui sont sur Zoom. Hein.
On est loin du Fiat Multipla. Hein. On va être d'accord, elle est extraordinairement belle.
Elle est magique. Mais ce qui est assez incroyable, c'est pour ça que je disais que c'est un doudingue, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même en période de car bashing, de malade mentale.
Ah oui.
Donc la voiture, on est en train d'essayer de nous faire arrêter d'en avoir ou d'en avoir qui ne ressemblent plus à des voitures parce qu'elles ressemblent toutes les unes aux autres. Et puis là, il y a un monsieur qui s'appelle Frédéric Gentil qui a monté une société. Vous n'êtes pas très loin de Vichy, hein, monsieur Gentil.
À Saint-Thior, oui, tout à fait.
À Saint-Thior. Nous, on aime
ça
bien aussi un verre d'eau de temps en temps.
C'est ça.
Et vous voulez séduire le marché du luxe, on est d'accord. Vous avez une équipe française qui a développé tout ça. Racontez-nous un petit peu aussi qui est autour de vous, parce que c'est une histoire d'équipe. Enfin, vous n'êtes pas tout seul, évidemment.
C'est un projet à la Elon Musk, non. Un peu. C'est du Tesla à la française.
Racontez-nous, Frédéric.
Oui, enfin, on est quand même plus modeste que Tesla. Nous sommes juste une petite équipe de 8 personnes à Saint-Thior. Et effectivement, donc, comme je vous disais, étape par étape, on a acheté différentes machines et on a avancé sur la réalisation de maquettes, puis de prototypes. Donc, on a une partie bureau d'études. On a tout un lot de centres d'usinage, de machines de découpe laser. Donc, on a dit aux investisseurs, plutôt que vous donner de l'argent et qu'on aille le dépenser en sous-traitance ailleurs, on va, avec votre argent, acheter des machines et on va réaliser ce prototype-là.
Est-ce qu'elle roule pour l'instant ?
On a économisé pas mal d'argent.
Est-ce que vous avez un prototype qui roule ? Est-ce que vous avez un prototype qui roule ?
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, on a un petit problème de réseau et de qualité de réseau.
Aujourd'hui, vous pouvez aller sur notre site internet, en première page de notre site. Vous verrez, il y a une vidéo, on voit la voiture rouler.
Oui.
Frédéric, on a un petit souci de qualité de réseau. J'espère que ça va tenir le choc, sinon on va devoir continuer au téléphone. Ça me paraît un peu compliqué. Votre site pour l'avoir roulé ?
Je vous dis sur le site www.genty6automobile.com.
Aujourd'hui, vous attendez quoi, Frédéric, puisque vous êtes toujours en train de faire de la levée de fonds, parce qu'un tel véhicule...
Alors,
on va être honnête, Frédéric, ce ne sera pas une voiture à 40 000 euros.
Non.
Non. Aujourd'hui, cette voiture-là va être vendue 1,8 million d'euros TTC. Il n'y aura que 15 exemplaires en version coupée et 10 en version roadster. Donc, bien sûr... C'est destiné au marché de l'ultra-luxe et des multimilliardaires.
Alors, monsieur Gentil, vous ne bougez pas, je vais chercher un défibrillateur automatique, c'est pour Laurence.
Dit, oui.
Pardon ? Maintenant, oui, vous avez besoin de... Frédéric ?
Oui, pour lancer la production série du véhicule, nous sommes à la recherche d'une enveloppe approchant les 10 millions d'euros et nous travaillons étroitement avec des fonds d'investissement européens, mais également des fonds d'investissement du Moyen-Orient quant à cela.
D'accord.
Mais pour atteindre cet objectif, on est toujours à la recherche de petits investisseurs comme Monsieur Tout-le-Monde, comme ceux qu'on a depuis le début, qui peuvent nous rejoindre et nous aider à augmenter notre budget prospection pour emmener le prototype.
Alors,
des salons Frédéric, à l'international,
Frédéric, Frédéric, on va vous appeler au téléphone parce que ça, c'est juste pas possible de continuer
Et ça tombe bien parce que du coup, je vais occuper un petit peu le créneau parce que cette voiture, en fait, ce qui va se passer dans l'objectif, on en parlera dès qu'on va retrouver Frédéric Gentil. Ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, on commence par un véhicule comme ça qui a un prix astronomique et on sait bien que tous les Français vont pas pouvoir acquérir un véhicule à près de 2 millions d'euros. Sauf que progressivement, on va réussir à abaisser ce coût de l'automobile pour peut-être derrière avoir une marque qui s'installe. En fait, une marque, elle s'installe toujours par le segment du luxe. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné, en tout cas dans les dernières marques. Si on regarde l'histoire de Tesla, quand Tesla arrive, elle n'arrive pas sur un modèle de véhicule qui est accessible à tous les Français. Lorsque vous avez la Toyota Mirai qui sort sur l'hydrogène, elle n'est évidemment pas accessible à tous les Français. Donc tu vois, Laurence, en fait, on va passer par ce segment du luxe pour peut-être, et on va demander à Frédéric Gentil si c'est le cas, pour peut-être derrière développer des véhicules à moindre coût, une nouvelle marque française. C'est peut-être ça la success story.
Je viens d'aller donner le numéro de téléphone rapidement à notre super Bastien qui réalise. Frédéric, on vous a retrouvé ?
Oui, tout à fait.
Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Oui, oui.
Donc Frédéric, j'expliquais en fait que peut-être que derrière cette ambition d'un véhicule qui est inaccessible pour beaucoup de Français, qui reste de l'ordre du rêve, parce que c'est vrai qu'elle est magnifiquement belle, mais peut-être que derrière ce projet, ensuite vous aurez le projet d'une marque tout simplement automobile qui s'installe avec une baisse des tarifs qui pourrait être occasionnée par ça, non ?
Ça pourrait être le cas. Maintenant, effectivement, la problématique, c'est que qu'on homologue une voiture pour 25 exemplaires comme nous ou pour 100 000 exemplaires, je dirais que les coûts sont systématiquement à peu près les mêmes. Ouais. Donc après, la problématique pour nous, c'est le fait d'avoir un gros moteur qui coûte énormément d'argent. Donc il faudrait qu'on développe notre propre moteur, notre propre châssis et donc des investissements.
Vous avez quel moteur pour l'instant ?
Alors pour le moment, sur le prototype que nous avons à l'heure actuelle, c'est le V10 de la Lamborghini avec deux turbos. Ouais. Mais sur la version de série, ce sera un moteur français développé à Valence qui a couru cette année aux 24 heures du Mans et qui tourne à l'E85 et il y a une
à l'éthanol.
À l'éthanol, voilà, tout à fait.
Qui a augmenté,
et il y a une version hydrogène qui a été développée pour l'année prochaine.
Mais alors c'est quoi la marque de ce moteur français ? C'est quoi ?
C'est Pipo Motor.
Pipo, c'est okay, mignon. Ouais. Juste quand même une réflexion de ma part, c'est que, tu vois, en France, on essaye de casser la voiture, on essaye de casser tout, et en fait, on est toujours dans la créativité. Il y a vraiment des talents en France qui sont assez incroyables. Frédéric, j'espère évidemment que vous pourrez aller au bout de cette aventure.
Moi, je regrette
c'est exceptionnel.
Un truc. Tu vois, dans le segment du vrai luxe, hein, si je te dis, cite-moi trois marques. Allez, vas-y, on le joue. Trois marques.
Ferrari,
de...
Bugatti, Porsche, un peu moins luxe maintenant, parce que c'est devenu presque.
Moi, j'avais Lamborghini en tête.
Lamborghini, oui,
mais,
bien sûr.
Voilà. Ça serait pas classe d'avoir une marque française.
Une Aquilone
française.
Ouais.
Non, franchement.
Ouais,
moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien aussi. Et puis,
Bugatti, souviens-toi quand même.
C'est français.
Oui, c'est sur le territoire français. C'est toujours du côté de Strasbourg. Mais,
c'est ça. Mais ça bouge d'investisseurs. Ouais. Mais j'aimerais bien, moi, une marque qui s'installe française dans le segment du luxe et qu'on croisera de temps en temps sur les routes en disant à un autre gamin, tu vois, ça,
Frédéric, pour conclure, puisque vous faites appel aux dons, on va sur votre site internet.
Je vous coupe, c'est pas aux dons. C'est les
oui, à la participation. Oui, à l'investissement, pardon.
Chose, parce que quand ils gagnent de l'argent, toi aussi. Hein.
Je fais amende honorable, vous avez raison, ce n'est pas du tout la même chose. Pour retrouver comment participer à cette aventure, on va sur votre site internet. Hein.
Voilà, rubrique contact, les gens nous contactent et voilà, à partir de 700 euros d'investissement, ils peuvent nous rejoindre et devenir actionnaires comme les 280 autres personnes qui l'ont fait depuis l'origine du projet.
Voilà, on n'hésite absolument pas. www.gentil-automobile.com. Merci beaucoup Frédéric, vous nous tenez au courant, on aura l'occasion de vous retrouver.
C'est moi qui vous remercie pour cette audience. Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup. Allez, à suivre.
Merci.
Toujours dans les coups de pouce, vous savez ce qu'on va faire ? On va parler d'un monsieur qui fait des livres, des calendriers, qui est fan de voitures, voilà. Il n'est pas sous le feu des médias, sauf de Sud Radio, parce que nous, on parle vrai, on donne la parole à tout le monde.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et on continue notre rendez-vous Sarroule de ce dimanche soir. On adore donner un petit coup de pouce, Pierre. Et là, on a eu envie de, voilà, de mettre sous les feux de la rampe un monsieur qui s'appelle Stéphane Corradi.
On a une petite découverte, en lecture qu'on vous propose. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pierre, bonjour Laurence.
Alors, c'est Stéphane, la grosse forme. Ouais, c'est la grosse forme. Alors Stéphane, quand il signe ses mails ou quand on échange, quand on a préparé l'émission, il signe toujours par salutation vrombissante. C'est un homme qui est passionné de voitures. Il fait des calendriers comme on est au mois de février, bah on pourra toujours s'offrir le calendrier de l'année, hein, y a pas de souci. Et puis surtout, vous faites des livres, beaucoup de livres. Vous êtes auteur aussi, Stéphane. Racontez-nous.
Exactement, bah, j'en suis au 4e livre et au 3e calendrier. L'idée, c'est, alors moi je suis un fan de Porsche, maintenant j'aime aussi plein d'autres marques, hein, j'aime, on pourrait consacrer le graphisme sur beaucoup de thèmes, mais bon, comme je suis un fan de Porsche, l'idée a été de faire quelque chose de très très beau, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des photos vues, revues plein de fois, je connais une centaine d'artistes dans le monde entier qui font du dessin, de la peinture, du numérique, des sculptures, donc ils me donnent plein d'illustrations et c'est un vrai choc visuel, c'est-à-dire qu'en gros, ça peut se vendre. J'ai des clients dans le monde entier, Australie, Floride, partout, parce que je mets juste des légendes traduites en anglais, mais le principe, c'est qu'on en prenne plein la vue avec des illustrations franchement à couper le souffle, des mises en page, tant pis, je vais dire que je vais un peu me faire de la promotion, mais avec des, il n'y a jamais une page blanche, il y a toujours des pages en couleur, des contours, des effets, le bouquin est une œuvre d'art lui-même, les tirages sont malheureusement alors faibles, alors c'est bon pour mes clients, parce qu'eux, ils ont des véritables collecteurs. Moi, j'arrive pas à gagner d'argent, tant pis pour moi. Le site s'appelle itsmyworld.fr.
It's my quoi ?
It's my world. World. C'est mon monde.
Itsmyworld.fr, ça veut dire en gros, c'est mon monde.fr, et je les vends que sur ce site. Par contre, vous avez pu voir, Laurence, que j'envoie des enveloppes à chaque fois calligraphiées. Il y a toujours des trucs en plus. Je veux que quand les clients ouvrent le paquet, ce soit comme un cadeau de Noël.
Ouais, c'est joli, ça. Ouais, tout à fait. Un cadeau de Noël, même au mois de février 2022, on
exactement,
adore.
On
et Stéphane, pour mieux vous rencontrer, comment vous êtes tombé amoureux de tout ça, vous, et des Porsche et tout ça?
Alors Porsche, est, entre guillemets, grâce à mon père qui m'a emmené aux 24 heures du Mans quand j'avais 12 ans, ça a été vraiment, le bruit m'a plu, parce que vous savez que comme c'est des moteurs refroidis par air, même sur les gros protos, ça a un bruit qui est à part, ça crache des flammes, et en plus, moi j'ai toujours aimé les BD, j'ai toujours aimé le graphisme, et c'est vrai que si vous voulez, les Ferrari sont toujours rouges, les Jaguars sont vertes, les Mercedes sont grises, mais Porsche, vous retrouvez tout un tas de couleurs iconiques, les couleurs Golf, les couleurs Martini, les couleurs Rothmans, la cochon rose, il y a vraiment des couleurs qui sont... Porsche est vraiment lié au graphisme, je pense, beaucoup plus que les autres marques. Et en gros, ça me permettait de concilier bah, la passion pour le graphisme, la passion pour Porsche, et de faire quelque chose qui est vraiment honnêtement unique. J'ai plein de clients qui me disent, mais vraiment, quand on a tes bouquins à toi, oui, les autres livres, c'est comme la différence...
Stéphane...
Bah, c'est la différence d'une Porsche et une Dacia. Quoi.
Vous
vraiment,
êtes...
Le reste, franchement...
ah, c'est très bien, Dacia, Stéphane. Stéphane, c'est très bien, Dacia. Vous habitez à Agen, donc voilà, un petit coucou à tous nos amis qui habitent dans cette belle partie de la France.
Ces
livres,
beaucoup, hein.
Ouais, ces livres sont vraiment, vraiment des livres, des beaux livres. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ce qu'on appelle les collections des très, très beaux livres.
Bah, alors on nous dit souvent que le livre c'est un peu foutu, moi j'y crois pas.
Ah non.
Parce que le beau livre, les gens ont envie de les mettre sur une bibliothèque.
Oui, ou caler les étagères aussi.
Pardon,
mais non.
Je disais vous aussi, des fois, pour caler les étagères, on a toujours besoin d'un bon bouquin.
Non,
à la maison.
Mais un beau... non,
allumer
mais...
le feu.
Non,
non, mais on n'en parle pas
arrête,
assez.
Pierre, c'est pas vrai. Les beaux livres, et moi je suis fan des beaux livres, et le livre en général.
Mais c'est
et
vrai,
tu sais que depuis, même, surtout depuis la Covid, mais c'est reparti en force, les gens aiment lire les livres. Alors, Bastien, notre réalisateur, me dit, tiens, tu sais qu'à Agen, on écoute Sud Radio sur le 102.3. Voilà, ça c'est placé.
102.3, ouais, exactement.
Merci, mon Bastien. Alors, il nous reste une petite minute à peine. Stéphane, vous faites aussi des calendriers. Alors, c'est vrai que comme on est début février, bah bon, ça a un peu commencé pour l'année 2022, mais on peut aussi encore en trouver sur votre site.
Ouais, j'ai même vu des
alors,
cartes postales.
Des calendriers, mais surtout, ils ont, alors, je vais encore faire ma promo, mais moi, je ne me contente pas de mettre 12 images pour 12 mois. Le dernier calendrier que j'ai fait, on trouve l'anniversaire d'un pilote à chaque mois. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que la 917, la voiture de course du siècle, quand on se creuse un peu la tête, et j'adore me creuser la tête, on trouve l'anniversaire des pilotes qui l'ont conduite, un en janvier, l'anniversaire était hier, Pedro Rodriguez, en février, Hans Hermann, et ainsi de suite. Donc, l'anniversaire anniversaire. C'est un peu mon concept, il y a toujours des clins d'œil. Non seulement c'est franchement, je trouve, beau, mais en plus, il y a toujours une double, une triple lecture, il y a plein de choses.
Moi, ouais, ce que j'aime là-dedans, c'est que souvent, quand on parle à des passionnés, trouver un cadeau qui leur correspond est souvent complexe. Là, pour le coup, si vous connaissez quelqu'un qui aime le sport mécanique, alors n'hésitez pas.
Hein. Alors n'hésitez pas, vous allez d'ailleurs soit à la page Facebook de Stéphane Coradi, C-O-R-A-D-I, vous trouvez toutes les infos, et puis soit directement sur le site. Stéphane, votre site internet pour conclure ?
Le site, c'est itsmyworld.fr, et si s'il y avait à l'audience un éditeur ou autre, ça m'intéresse, parce que je vous jure que tout seul, c'est très facile,
mais en tout cas, un grand bravo, et nous voulions vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de main, 40 millions d'automobilistes, Sud Radio et toute l'équipe de Ça Roule. On vous embrasse fort, Stéphane, et tenez-nous au courant d'ici quelques mois de l'avancée des aventures littéraires de Stéphane Coradi. Allez, on vous souhaite à tous un bon dimanche soir. Merci beaucoup, mon Pierre.
Eh bien, bonne route.
Ah mais non, que c'est pas terminé, mais n'importe quoi. Il y a l'échange avec Pierre. Bastien me dit, Lolo, il n'est pas 19h encore.
Ben oui, ce que j'allais dire, bonne route, ma Lolo, on va te laisser, mais moi, je continue un petit bout.
Oui.
Pour être posé sur le bord. Ouais. Je veux oublier Lolo sur l'aire d'autoroute, ça arrive hein, des fois. Mais
l'échange avec Pierre, c'est dans quelques instants. Vous voulez participer, échanger.
À la fin, à mon avis, à la fin.
Oui, c'est ça. 0826-300-300, à tout de suite.
Sud Radio Ça Roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Au 0826-300-300, vous nous rejoignez pour terminer notre rendez-vous Ça Roule, et Ça Roule avec vous. Bien sûr, voici venu le moment de l'échange avec Pierre. Bonjour Jean-Pierre, qui nous appelle lui de Montpellier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour Manolo. Je vous souhaite une très bonne année à tous les deux, de la santé et de l'amour. Alors restons ensemble, surtout pas de voiture électrique. Sauvez les diesels.
Bon, alors je prends vos voeux, même ça si depuis fort. Le 30 janvier, le 31, c'est fini, mais c'est pas grave. Alors j'ai adoré l'introduction, moi.
J'adore.
Donc vous êtes contre l'électrique, en fait, si on a tout compris.
Ah, contre, oui, non, mais parce que, vous avez vu les tarifs de l'électricité pour l'instant, non ?
Ouais.
Et puis le prix des voitures électriques quand même, faut pas rigoler.
Ouais, mais il a raison. Le prix de l'énergie, l'électricité, faut savoir que pour l'instant c'est contenu par le gouvernement, mais que les tarifs de l'électricité s'envolent, que l'arrivée des énergies vertes qui sont défendues et qui arrivent vont faire augmenter mécaniquement les coûts de l'arrivée d'énergie. Mais vous avez tellement raison. Mais moi, ce qui me gêne, vous savez ce qui me gêne, Jean-Pierre, c'est que les Français, pour l'instant, on est un peu en train de leur mentir en leur disant passez tout ça à l'électrique. Allez-y, il y a de l'autonomie, vous allez voir, vous allez faire des économies. Pour l'instant, mais niveau autonomie, on n'est pas au rendez-vous, il y a beaucoup de déçus. Niveau prix, on n'est pas au rendez-vous, il y a quand même beaucoup de déçus. Et puis derrière, l'augmentation des coûts de l'énergie, vous avez tellement raison Jean-Pierre, tellement raison.
Et j'ai discuté avec une petite dame qui avait une Tesla, mais pas une Tesla promo à 50 000, là. Une qui avait 100 000, hein. Ouais. Qui valait 100 000. Elle me dit, si on ne met pas la clim à Montpellier, si on ne met pas la radio, on peut faire peut-être les kilomètres indiqués.
C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai testé une voiture électrique. Alors, je vais vous faire marrer parce que je vais abonder dans votre sens. C'était une petite voiture. C'était une Citadine, on va être très clair. Elle n'était pas vendue pour dire que vous faisiez 500 bornes avec. Il y a une autonomie qui était de 250 en maximum. Sauf que 250, j'en ai jamais vu la couleur. Parce qu'en fait, alors moi, je l'ai testé, il faisait froid. Donc, j'allumais les phares, la radio et le chauffage. Je vais vous dire franchement.
Vous la poussez après la voiture pour arriver à la maison.
Et puis alors, si vous mettez à 130 sur autoroute, la première fois, je ne savais pas. J'ai roulé avec une voiture électrique comme je roule avec ma voiture. Donc sur autoroute, 130, 30 kilos. Bon, j'ai vu l'autonomie partir. J'avais l'impression que je faisais une tournée des stations-service françaises. Et c'était une catastrophe. Donc évidemment, je pense qu'on ne présente pas bien le véhicule électrique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un véhicule qui correspond aux besoins peut-être d'un deuxième ou troisième véhicule dans un foyer, mais qui est très cher et qui correspond à des CSP+, des gens qui gagnent très bien leur vie.
Oui, non, mais enfin, il faut penser que les diesels propres actuellement avec la D-Blue, ça pollue quand même pas beaucoup.
Ça pollue moins.
Il y a quelqu'un qui était chez Nicolas Dose et qui a écrit un bouquin, je ne me rappelle plus de son nom, qui disait « Les écologistes nous mentent », comme il a raison, ce monsieur.
Enfin, le problème des écolos, c'est qu'ils ont toujours 20 ou 30 ans de retard, et eux, ils sont persuadés d'avoir un siècle d'avance. Donc là, ils viennent de découvrir le vélo, ils pensent que c'est l'avenir. Moi, mon grand-père, il avait un vélo, et il partait au vélo, à son travail à vélo, mais parce qu'à l'époque, la voiture était très chère. On a réussi à démocratiser la voiture, à permettre à tout le monde d'en avoir une, et aujourd'hui, ça redevient un luxe. Le prix des carburants est un luxe, qui est ponctionné par des taxes qui sont juste insupportables. Le coût d'achat d'un véhicule neuf est un luxe. Les nouvelles énergies qu'on nous propose sont des luxes inaccessibles qui ne nous permettent même pas d'avoir une autonomie suffisante. Bref, j'ai peur qu'on revienne en arrière et que... On dit toujours, les jeunes, ils n'aiment pas la voiture, ils n'en achètent pas. Non, ce n'est pas ça. Les jeunes, ils n'achètent pas de voiture parce qu'ils n'ont pas l'argent.
Non, mais le gros problème, il est là quand même, hein, c'est ça. Moi, je rêve de voir les écolos aller faire leurs courses chez Carrefour, Auchan, avec leur vélo et une remorque derrière pour amener les courses.
Mais ils le font.
Non,
ils
mais
le
ça
font.
Marche, ça marche. C'est pas le meilleur exemple parce que. Non, ça, c'est pas le meilleur.
J'en ai pas vu sur mon côté.
Si, nous, il y en a beaucoup. Alors, c'est pas le meilleur exemple.
Paris, il a raison, à Montpellier, il n'y en a pas un.
Mais dans ma petite banlieue où c'est un petit village, il y a des gens qui vont faire leurs courses avec leur vélo parce que aller faire ses courses à Carrefour. Je parle pas d'un gros plein de 3 mois de course ou même d'un mois, mais quand faire tes courses 2 fois par semaine, ça marche. Alors pas pour une famille de 4 à 6 personnes.
Je te dis, nous on est 5 à la maison, on est à 12 kilomètres du Leclerc. Je vais te dire que le jour où je vois Alizé partir avec le vélo cargo, Mathieu, Clara et Clément derrière, et puis chercher les packs de lait, ce jour-là je fais une photo. Hein.
Non mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que il y a des gens pour qui c'est possible quand on a une grande. Enfin, moi, mon petit Intermarché, des fois, j'y vais à vélo avec mon petit panier. Hein.
Mais tu prends tes petits besoins du jour.
Mais j'ai plus
ou
3 enfants à nourrir, ils sont grands. C'est vrai. Non, mais j'avoue.
Voilà, mais
amende honorable.
D'ailleurs, c'est comme ça que la grande distribution s'est imposée, c'est qu'elle a proposé des parkings gratuits. Ouais. C'est l'intelligence. C'est tu peux stationner, donc c'est pour ça que tu y vas. Ouais. Si tu pouvais stationner facilement en centre-ville, les commerces se seraient développés en centre-ville, pas en périphérie. Hein.
Bon, en tout cas, voilà, messieurs. Jean-Pierre, le mot de la fin, c'est bon pour vous? Le rire de la fin. Le rire du Serge.
Rien de plus. Vos chroniques sont bien avec Romain le matin, Pierre.
Ah ben voilà, t'es suivi partout toi, de toute façon. Ça y est, tout le monde te connaît.
Ah oui, d'accord.
Et Lolo, je vous vois aussi sur les achats de télévente.
Ah, M6 Boutique. Bon, nous sommes avec un fan. Eh ben, merci beaucoup, c'est adorable, Jean-Pierre.
Je suis obligé de faire une grosse bise à mon Romain.
Merci. Non, ça c'était F1, Bastien. Ça, c'est télé-shopping, chouchou d'amour. Moi, c'est M6 Boutique. Bon, on est un peu copains dans la vie aussi avec les autres. Allez. Merci Jean-Pierre.
Je vous souhaite une bonne journée.
Une bonne soirée surtout.
Bonne soirée.
J'avais lancé une invitation à Pierrot, pardon. S'il venait dans le coin, je sais que vous habitez pas près de vous, mais si vous voulez venir dans le coin.
On va y aller là maintenant, Jean-Pierre. On va le faire en antenne, l'invitation, parce qu'on est pris par le temps maintenant. Mais
tout le monde sait que je suis un fan de cette série.
Que tu y vas d'ailleurs tous les ans. Allez, grand bisou à tous. Très bonne soirée, très bon dimanche. Bonne semaine dès lundi. À l'écoute de Sud Radio, bien sûr. Salut Pierrot.
Salut Lolo.